Voilà. Voilà.
Voilà une photo d'un des ancêtres créateurs que je n'ai pas connu, bien entendu.
J'avais une photo, c'était sous la neige, avec un collègue devant les bureaux.
Voilà une photo d'avion de l'usine dans les années, au début du siècle. C'était à l'époque de la guerre de 14 que ça a été fait, cette photo, avec l'inévitable cheminée.
Ça, c'était le tous les agents de maîtrise. Ben, je suis là. Là.
Bon, ça fait bien longtemps que j'ai pas mis les pieds par là-bas. Je suis pas allé voir.
C'est surtout le COFPAC que tu veux savoir. C'est une fusion de quatre usines de feutres. Voilà un feutre, là. COFPAC fabriquait des feutres pour les machines à papier. Les machines à papier ne peuvent pas tourner sans des feutres.
Il faut quand même en parler du papier, on ne peut pas faire autrement. Le papier, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord 95% d'eau, 5% de pâte, en gros. Et puis à la sortie, vous avez une feuille sèche sur laquelle vous pouvez écrire, imprimer ou dessiner, faire tout ce dont vous avez besoin. Donc ça veut dire qu'il faut enlever cette eau. La première partie se fait par égouttage.
Pour l'égoutter, c'était les transporteurs. Les transporteurs, c'était des grands feutres qui transportaient la pâte. C'était le nom des feutres.
La deuxième partie, c'est la partie qu'on appelle les presses en matière de machine à papier, où on fait passer le papier entre deux cylindres et qu'en même temps que le papier, on fait passer un feutre.
Les vergeurs, les coucheurs, les preneurs, tout ça, c'était des types de feutres qui avaient pour but de former la feuille. Tu vois, voilà une machine à papier. Donc, il y a différentes sortes de papiers. Vous avez les papiers craft, les papiers d'emballage, les papiers parchemin, les papiers écriture, les papiers journaux. Angoulême, il y a eu des papeteries qui faisaient du papier à cigarette. La Roche-Joubert, c'était papier écriture, papier enveloppe, tout ça. Il y avait une usine aussi du côté de Saint-Michel qui faisait du carton. Toutes ces petites usines ont disparu. Alors en Charente, on avait beaucoup de papeteries. Pourquoi en Charente ? Parce qu'on avait des rivières dont l'eau était très appréciée par la pâte. C'est-à-dire c'était une eau qui était bien adaptée pour faire de la pâte à papier et faire un bon papier.
Mais je suis complètement, comme la fibre de laine, imprégné. Pas par le soin, heureusement. Mais je suis imprégné par la magie. Ma mère était employée comme tisseuse chez Régnier. Mon père a été l'ingénieur de fabrication. Donc il allait faire ses tournées dans les différents locaux pour voir si tout allait bien. Et c'est comme ça que je suis là aujourd'hui, à cause de ça, finalement. C'est ce qui est très amusant. J'allais toujours me promener, soit avec mon père, soit avec un des responsables, des contremaîtres, dans l'usine. Et j'y passais des heures, quand j'étais pas à l'école. J'adorais sentir et ressentir, justement, toutes ces odeurs et toutes ces vibrations. J'étais devenu un petit peu la mascotte de tout ce monde qui était derrière les métiers à filer, les cardes, les métiers à tisser. Donc moi, j'assistais à tout ça et ça, je l'ai vu des fois et des fois. Il y avait encore un autre personnage qui faisait pour moi 2 mètres de haut, du jardin. Tu as connu, tu te souviens du jardin ? Il avait toujours un béret. Un béret basque à côté, c'est Rikiki, parce qu'il avait un grand béret avec. Ça faisait un peu casquette et toiture de maison avancée. Du jardin en particulier, c'était un gaillard qui devait faire 1m90 à peu près, et avec des biceps gros comme mes cuisses, et qui sortait les feutres à la main. Et il m'impressionnait beaucoup aussi, cet homme-là, qui m'aimait bien et qui m'amenait au magasin de réception des ballots de laine, parce qu'on travaillait exclusivement qu'avec de la laine à cette époque-là. Cette laine était donc déballée, aérée, et était traité dans un local spécial qui s'appelait le Loup.
Beaucoup de laine au départ. Des laines qui étaient d'Australie, de Zélande, des laines de France, des laines de... Tout ça, c'était des laines qui étaient recherchées. Des laines d'Afrique du Nord, mais c'était les moins renommées. Les plus renommées, c'était Zélande, Nouvelle-Zélande et Australie. Donc ces laines, on les recevait par balle. Et de ces laines, on faisait des mélanges. On faisait des mélanges pour obtenir une qualité de fil que beaucoup n'avaient pas. Une laine est constituée de fibres. Quand on regarde une laine, on la déchire et on regarde les fibres. Et les fibres, ils sont longs et fins. Plus ils sont longs, plus la laine est de qualité. Et les laines d'Afrique du Nord, c'est des laines très courtes, les fibres très courtes. Si vous prenez un seul fibre d'un paquet de laine, il est creux à l'intérieur. Donc sa particularité est de garder l'humidité pour faire un bon transport de pâte. L'évolution du temps a voulu qu'on remplace la laine parce qu'il y avait trop de travail autour de la laine pour arriver à faire un feutre. Alors que les produits synthétiques, on recevait les fils tout faits, terminés.
Il y avait les odeurs de la laine et puis il y avait aussi les puces. Parce que la laine et les puces faisaient bon ménage, mais les puces, elles faisaient des trous dans la laine. On se grattait pas mal. Ça faisait partie du plaisir.
Et alors, de ces laines, il faudrait que je le trouve quand même. Alors, voilà, les balles, comment on recevait la laine, là. Voilà. Tu vois ? Alors, on les passait dans des grandes machines qui s'appelaient des cardes. Ces cardes, c'était des grandes machines qui avaient pour but de mettre tous les fibres dans le même sens. Là. Ça part de là, ça vient là. Ça, c'est la laine qui est rendue comme ça, hein, par le travail des machines. Donc ces fils, après, ils étaient mis sur des bobinoirs pour arriver à les mettre sur des métiers à tisser.
Alors là, vous voyez un métier à tisser, et vous remarquerez la taille gigantesque de l'appareil. C'est quand même assez impressionnant. Ce métier, il doit faire une quinzaine de mètres de largeur. C'est énorme. Des métiers de cette taille-là, c'est extraordinaire. Dans le cadre du métier, vous avez cette partie-là, qu'on appelle les lisses, dans lesquelles il faut entrer chaque fil de chaîne manuellement. Et ça, c'est un travail manuel qui est évidemment très, très long.
Parce que, comment dire, vous connaissez un métier à tisser, hein, vous avez la navette qui passe avec le fil, et ce fil, il peut casser à tout moment, hein. La chaîne ou la trame peut casser à tout moment. Alors, il y a beaucoup, c'est pas un métier de force, mais c'est beaucoup un métier d'attention, quoi.
Oui, c'est ce que je pense.
Alors, même si ça a évolué, il fallait toujours l'œil du tisserand. Parce que quand le fil de la navette cassait, bon, la machine, elle a continué. Hein. Donc après, il fallait retrouver le sens. Quand un fil cassé, quand on tissait, on faisait un petit nœud, pof, il passait dans le tissage. Un fil synthétique, il ne passe pas, quoi, le nœud. Hein. Avec un petit poids, on mettait derrière, le temps que le fil soit assez long pour pouvoir le raccorder. Enfin, c'était tout un... Ça a tout changé, le travail aussi.
Un travail de patience.
Ça paraît simple comme ça, mais quelqu'un qui n'a pas de métier, il n'y arrivera pas.
Bien sûr.
Il y avait un mouvement de va-et-vient. Quand ils avaient tordu les fils ensemble et tout ça sur une longueur de peut-être 5-6 mètres, le métier, une partie de ce métier reculait pour en rembobiner le fil qui venait d'être fait. Et ainsi de suite, et de ça, 24 heures sur 24, avec un contremaître et un ouvrier qui surveillait tout ça. Bon, parce que, autant vous dire qu'il y avait des problèmes, il y avait des drames parfois, parce que ça cassait, parce que ça s'en mêlait, parce que ça voulait pas venir, et tout. Bon. C'était des machines qui étaient vraiment impressionnantes pour un gamin qui avait 5 ans, 6 ans. Vous imaginez un petit peu la taille et le bruit, surtout, de ces métiers. Aujourd'hui, on n'aurait même pas le droit du tout, d'ailleurs, d'y aller, parce que de temps en temps, ça c'est pour la petite histoire, les navettes qui partaient à plusieurs mètres secondes avaient la bonne idée de quitter le métier sans demander la permission. Et ça partait où ça pouvait. Et il y a eu des accidents graves, parce que s'il y avait des personnages qui étaient dans la trajectoire, je m'entends vous dire, c'était comme une fusée, en fin de compte. Hein. Donc après, ils avaient mis l'atelier d'entretien avait mis des gros grillages à chaque bout de métier pour pouvoir récupérer la navette. Alors, au bout d'un certain temps, d'ailleurs, ces grillages étaient enfoncés, avaient des protubérances et tout ça, moi je m'inquiétais, je me disais, mais qu'est-ce que c'est ça ? Mystérieux.
Ah ouais, ce sont des grandes machines qui poussent la navette, blim, blam, blim, blam, ça y va, hein.
C'est-à-dire, on dirait un moteur d'avion. Pas un réacteur, un moteur de DC-3. Si tu vois un moteur à piston, un vrombrissement.
De l'usine, quand il y a le bruit des machines, le bavardage, c'est pas très possible. Ça peut arriver quand il y a la pause, mais autrement, on peut pas parler, parce que ça fait un bruit pas possible, ces machines.
Le pire, je crois que c'était les métiers, les petits métiers,
les petits métiers des anciens.
De Nersac. C'était les mitraillettes. C'est un peu les métiers jacquard. Ah oui, oui, c'est de la folie.
À l'époque, on prenait pas de casque ou de coton dans les oreilles, mais à un moment donné, la sécu a obligé de mettre, oui, on tournait au-dessus 110 décibels. Les navettes, quand elles étaient propulsées, c'était un bruit infernal. Hein. On était habitué. Moi, je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, je suis un peu sourdingue, mais bon, je ne suis pas une maladie professionnelle. Hein.
Parce qu'on oui. On aime bien entendre le bruit de sa machine. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ben on oui. Dit tac. Avec les bouchons, ben ça... Tous ces bruits qui, des fois, un petit peu bizarres, on ne les entendait plus. Quoi.
Le technicien, il travaillait beaucoup avec son œil, avec ses oreilles, pour entendre le bruit, savoir comment la machine se comporte.
On avait trouvé quelques trucs, parce qu'après, comme de chaque côté, on avait un rossignol qu'on passait, c'est-à-dire le rossignol, c'était un fil qui était en lisière, qui retenait la trame. Et ce fil, il montait, bien sûr. Mais quand il cassait, des fois, on ne l'entendait pas. Alors, on avait mis une petite plaque en fer. Comme ça, quand il cassait, malgré les bouchons, bam, on l'entendait. Enfin, on arrêtait la machine, vite, on pouvait le réparer. Des petits trucs comme ça qui...
Bah oui, mais...
Par contre, au Grand Ponteau, on était embêté par les inondations. La Grand Ponteau, c'est la Touvre qui remontait, qui inondait. La Charente la refoulait la Touvre qui faisait inonder Grand Ponteau. Regarde un peu les... On travaillait avec un mètre d'eau dehors. Les ateliers, on avait des portes étanches, mais l'eau, c'est quelque chose d'inimaginable. On avait des pompes. On était outillés pour les inondations. On avait des pompes à chaque coin des ateliers qui étaient inondables et qui rejetaient l'eau à l'extérieur. Alors ça, c'était la nuit. Il fallait surveiller la nuit. On était de service et tout. Et, ouais, c'était, regarde la pompe là, qui rejette l'eau extérieurement.
Voilà un autre exemple de machine en train de former un feutre. Là, vous avez l'exemple du matériel qui se rapporte précisément au feutre. Parce que, à l'époque dont on parle ici, les feutres méritaient leur nom par le système qu'on appelle le feutrage. Et le feutrage... C'est un phénomène que les maîtresses de maison connaissaient très bien, celles de maintenant moins. Mais à l'époque où les vêtements étaient tous en laine, un pull vert, il fallait prendre beaucoup de précautions pour le laver parce qu'il avait tendance à rétrécir. Et quand un tissu de laine rétrécit, dans le cas d'un vêtement, il est trop petit pour celui qui est censé le porter. Mais dans le cas du feutre pour papeterie, c'était évidemment un élément fondamental. Or, le travail à la fois des techniciens et de ceux qui menaient ces machines était extrêmement délicat. Prenez l'exemple, on veut faire un feutre qui va mesurer, une fois fini, 20 mètres de long par 3 mètres de large. On va tisser plus long et plus large. Et quand le feutre sera fini, on va le passer dans une de ces machines à une certaine température, elle aussi déterminée par les techniciens. Et petit à petit, le feutre va se rapetisser et se raccourcir. Mais le rôle fondamental de l'ouvrier spécialisé, et là c'est vraiment un spécialiste, c'est pas n'importe qui, il faut qu'il soit capable, un petit peu comme un boulanger qui sait le temps de cuisson de son pain pour qu'il soit parfait, il faut qu'il soit capable, en fonction du tissu sur lequel il travaille, de déterminer à quel moment il va arrêter. Parce qu'il ne peut pas le mesurer sur place dans la machine.
Et une fois que ce feutre était sorti de la machine, Et une fois bien lavé, étiré, séché, et ainsi de suite, il devenait le feutre final, qui était quand même assez dur, assez rigide, qui répondait aux normes attendues pour pouvoir recevoir la couche de papier.
Les ouvriers du magasin de contrôle mettaient un feutre sur la perche et on entrait dedans, parce que c'était très grand, on entrait à l'intérieur du feutre, la lumière était de l'autre côté, et on faisait tourner le feutre, mètre par mètre, et on passait deux, trois personnes avec les yeux à regarder si on voyait des défauts. Et s'il y avait des défauts rédhibitoires, il fallait que le feutre tourne en usine. Parfois, on était amené à leur refuser de le livrer.
Eh oui, et puis vous nous mettiez en retard. Donc moi, personnellement, je suis rentrée juste après mon bac. Donc j'avais 18 ans. J'étais secrétaire commerciale au début. Et 20 ans après, mon poste était responsable du service administratif commercial des tissus industriels. Donc j'ai fait ma carrière, c'est exceptionnel, uniquement à COFPA. Donc de l'âge de 18 ans à 55 ans.
Alors moi, je suis rentré à la COFPA en 1974, j'avais 17 ans et demi, j'étais au service entretien, où j'ai gravi quelques échelons quand même, parce que ça me plaisait, le travail me plaisait.
Quand on rentrait à COFPA, c'est comme quand on rentrait chez le roi ou ailleurs, c'était pour y faire sa carrière, quoi, quelque part.
On peut dire qu'on était une famille à l'époque.
Ça se passait bien, quoi, disons.
C'était un savoir-faire. Et ça s'est tout cassé la gueule.
Donc en 81, la société américaine a racheté la société française, COFPA. Ça a bien marché, ou à peu près bien marché, pendant 10 ans. Et puis en 90, ils nous ont vendus. Et c'est là qu'on est devenu italien. Mais la société italienne était très liée avec une autre grande société en Allemagne. Si bien que nous, on a été un petit peu le parent pauvre et ça a créé la disparition de COFPA fin du 20e, début du 21e, parce que